Bonjour, ici Eugénie Francoeur, coach en santé globale, ex-journaliste et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit à la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Mieux vivre aussi avec soi-même et avec les autres. Je vous souhaite la bienvenue sur le balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers ces balados, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse vous inspirer, vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que mon enthousiasme et ma croyance se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». C'est un bonheur de vous retrouver et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, si vous avez des commentaires, envoyez-moi un petit mot. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que beaucoup de femmes et d'hommes aussi n'aiment pas leur corps, voudraient qu'il soit différent. Dans la plupart des cas, on le souhaite plus mince, plus musclé et éternellement jeune. Cet enjeu d'image corporelle vient trop souvent hanter notre rapport à la nourriture. Cette relation, souvent tordue à l'alimentation, prend plusieurs formes. La privation, la compulsion, l'excès, l'obsession et la surveillance constante de ce qu'on mange. À un bout du spectre, il y a la boulimie, à l'autre l'anorexie et entre les deux, toutes les variantes de troubles alimentaires. À cela s'ajoute l'orthorexie ou l'obsession de manger sainement qui est un défi envahissant pour beaucoup de monde. C'est dans ma pratique de coaching, en écoutant mes clientes et mes clients, que l'idée m'est venue d'aborder ce sujet. Pour en parler, je reçois Guylaine Guévremont, nutritionniste et coach en alimentation intuitive. Elle a elle-même été prise dans ce cercle vicieux de privation et d'excès alimentaire. Forte de son expérience et de son succès, elle a fondé MULA, une équipe d'expertes qui accompagne les femmes aux prises avec des troubles alimentaires. Vous trouverez les infos sur comment la joindre dans les notes de l'épisode. J'étais stupéfaite lorsque Guylaine m'a appris que 80 % des adultes ont perdu accès à leurs signaux de faim et de satiété. Ça veut dire que 4 personnes sur 5 ne savent pas quand elles ont vraiment faim et quand elles ont assez mangé. Guylaine nous rappelle que manger n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sur ce, bonne écoute et si vous connaissez quelqu'un aux prises avec des troubles alimentaires, s'il vous plaît, faites circuler. Bonjour Guylaine, merci d'avoir accepté mon invitation.
Ouais, ça me fait plaisir Eugénie, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour faire ce podcast-là, c'est super, merci de m'avoir invitée.
On a un beau sujet à parler avec toi, vraiment là, un sujet dans l'air du temps, malheureusement qui est souvent dans l'air du temps, donc image corporelle, orthorexie, troubles alimentaires et autres, on va aborder tout ça dans l'heure qui vient. Avant de te poser des questions spécifiquement par rapport à ça, j'aimerais ça savoir ton background à toi puis ce qui t'a amené à accompagner ces femmes-là.
Ouais, parce que évidemment, hein, tu sais, quand on dit le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre, j'ai pas eu d'intérêt pour les troubles alimentaires, genre comme ça un matin en me réveillant en me disant ça a l'air intéressant. Non, en fait, j'ai grandi avec une mère qui il y avait un rapport à son corps très négatif, je dirais. Tu sais, puis pour moi, c'était très troublant quand j'étais petite parce que comme enfant, tu sais, je regardais ma mère, puis je la trouvais tellement belle, tu sais, puis je me disais mais comment elle peut tellement pas s'aimer, tu sais, comment elle peut ne pas aimer son corps à ce point-là. Puis tu sais, c'est clair pour moi les souvenirs que j'ai de me dire mais c'était vraiment comme très prenant pour elle, puis je me sentais très impuissante à la rendre heureuse, tu sais, comme enfant, on a comme l'impression qu'on a ce pouvoir-là de rendre les autres heureux. C'est plus en vieillissant qu'on réalise qu'on est limité à ce niveau-là. Puis, si ça avait été juste ça mon histoire, ça se serait arrêté là. Mais après, moi, comme adolescente, j'ai commencé à mon tour à me trouver grosse, à avoir l'impression qu'il fallait que je perde du poids. Et me lever le matin et me dire aujourd'hui, il faudrait pas que je mange. J'avais comme cette espèce d'impression que manger était comme un luxe. comme faire du sport. T'sais, on choisit quand on mange, on choisit quand on s'entraîne. Puis finalement, ben, ça marchait pas. Puis tu sais, encore là, tu sais, j'ai encore des souvenirs super clairs là, de venir, de finir de manger, tu sais, donc être rassasié. Puis de me dire, là, je remange plus. T'sais, c'est comme c'est fini. Puis ça faisait juste que justement, je me sentais tout le temps en échec. Je sentais tout le temps que j'y arrivais pas, que j'étais pas capable. Tu sais, un peu comme n'importe qui. Puis si vous écoutez, puis vous avez eu des troubles alimentaires, vous connaissez des gens qui ont des troubles alimentaires, tu sais, j'adulais ces filles qui étaient capables de pas manger, puis qu'elles y arrivaient, puis que moi, j'y arrivais pas. Puis ça a duré comme ça pendant à peu près une dizaine d'années, même plus que 10 ans, à passer là, de moments à me restreindre énormément, à un moment où est-ce que j'étais plus capable de me restreindre, puis à passer de poids qui arrêtait pas d'être up and down, jusqu'au moment où je suis arrivée dans mon bac en nutrition, puis qu'une chercheure nutritionniste est venue nous parler du nouveau paradigme sur le poids. Puis elle a parlé des signaux de faim, des signaux de satiété, puis j'étais comme, ah, c'est le même que je mangeais quand j'étais jeune, c'était ça qui était là pour moi. Puis de là, après cette rencontre-là avec cette prof-là qui était venue dans notre cours nous parler de ça, j'ai commencé à réessayer d'écouter mes signaux de faim et satiété qui étaient rendus pas mal loin. Là. Je veux dire, ça faisait longtemps que je les écoutais plus. Et tranquillement, pas vite, mon poids s'est stabilisé. Sauf que à travers tout ça, je me regardais dans le miroir puis je voyais pas de différence. T'sais. Je savais que mon corps avait changé. Je portais plus les mêmes vêtements que je portais avant. Mais la non-appréciation de mon corps, elle était toujours restée, elle était encore là. Et après ça, j'ai commencé à consulter en psychothérapie. Et c'est là que vraiment j'ai fait le lien entre la non-acceptation de mon corps et la non-acceptation de mon être, à quel point je m'aimais pas, et de tout reconstruire ça. Puis finalement, ben ça, c'était le côté le plus fascinant. Là. Je veux dire, j'étais capable de voir la transformation de mon regard à travers moi, alors que je savais que mon poids bougeait pas, mais j'étais capable de me voir de plus en plus prendre une forme qui était la mienne, alors qu'avant, je me voyais comme dans... C'est assez typique des personnes qui ont des troubles alimentaires, on se voit comme à travers un miroir grossissant, tu sais, mais de voir comme, tu sais, tranquillement, pas vite, que le miroir a arrêté d'être grossissant pour moi, puis d'être capable de me voir tel que j'étais. Et je peux dire, finalement, tu sais, c'est comme si j'ai vécu mon processus comme en deux étapes, tu sais, j'ai amélioré ma relation avec la nourriture, et ensuite de ça, mon image corporelle, tu sais, comme d'emblée, tendance à dire que le plus gros changement dans ma vie a été d'améliorer mon image corporelle beaucoup plus que d'améliorer ma relation avec la nourriture. C'est sûr qu'une fois qu'on est libre, quand on mange, on le tient un peu pour acquis, mais dans le changement que ça a fait dans ma vie, un est très, très important parce que justement, tu sais, d'arrêter de me comparer, arrêter tout le temps douter, à m'habiller, me parler, tu sais, aller dans des fêtes chez des amis puis pas constamment être en train de remettre en question tout ce que je disais puis comment je m'exprimais puis de parce que tu sais ça va bien au-delà de juste sentir que j'étais trop grosse, il y avait comme toute la façon que mon corps était en existence qui était problématique puis pour ça que je dis c'est l'impact, je le sens beaucoup plus grand parce que l'acceptation du corps a pas été juste une acceptation du corps, a été une acceptation de moi comme être humain. Fait que ouais, et c'était ça mon grand parcours. Puis de là, c'est de voir à quel point j'étais partie de loin. C'est comme j'étais partie vraiment loin. De me dire, ben j'ai été capable de partir de là puis d'arriver à une place dans ma vie où est-ce que dans la jeune début trentaine, j'étais capable d'accepter mon corps. Je me dis, ben c'est accessible à tout le monde. C'est dans le sens que tout le monde a le potentiel d'arriver à un moment d'avoir une relation saine avec son corps et son alimentation. C'est vraiment ce qui m'a donné le goût de faire ça dans ma vie, tu sais, de vraiment avoir cet angle-là, d'accompagner les femmes dans ce processus, parce que c'en est un qui s'étale sur des mois, voire des années, mais qui vaut comme chaque journée vers cette amélioration de l'état d'être vaut l'effort qu'on y met.
Ah, il y a beaucoup de choses. J'ai déjà beaucoup de questions qui popent dans ma tête juste à t'écouter. Ce que tu dis, c'est riche, tellement profond puis tellement omniprésent dans notre société. Maintenant. Pas que, mais beaucoup chez les femmes. Une des choses que tu viens de dire, c'est que la non-appréciation, donc tes propos, la non-appréciation de ton corps avec la non-appréciation de ton être, c'est profond quand même comme comme parole.
Ouais, parce que dans le fond, c'était cette espèce de souhait de dire le jour où mon corps va être OK, je vais être OK. Le jour où est-ce que mon corps va être assez mince, parce que c'était ça, tu sais, ben là, soudainement, ma vie va être facile. Soudainement, je vais pouvoir avoir les emplois que je veux, je vais pouvoir avoir les amis que je veux, je vais pouvoir être comme dans cette liberté-là. Puis tout était comme projeté sur mon corps. Puis je suis capable encore de m'entendre réfléchir comme je réfléchissais à cette époque-là, qui a l'air comme tellement loin de moi maintenant, mais vraiment d'y croire profondément que c'était, que le problème était lié à mon poids, alors que dans le fond, le problème était lié à mon être. Et ça a été le déclic qui a permis justement de lâcher prise par rapport à mon image corporelle.
C'est tellement fascinant ce que tu racontes. Comme coach santé, j'accompagne beaucoup de femmes, des jeunes et des moins jeunes. Et tu as dit tantôt quelque chose, je me trouvais grosse. Ce qui me fascine, me surprend, c'est que même des femmes pas grosses se trouvent grosses. Mm-hmm. Et à partir de quand on se trouve grosse?
Ben, tu sais, quand je suis, mettons dans tout mon processus, tu sais, quand j'ai un moment donné, autour de l'âge de 16 ans, je me suis trouvée grosse, j'ai pris plus de poids, j'en ai reperdu quand, en fait, le poids naturel que j'avais, j'étais revenue à mon poids naturel. C'est pour ça que je dis la deuxième étape qui était d'accepter mon corps. C'est-à-dire, je me trouvais grosse au poids que la nature avait prévu pour moi. Et dans ma perception, quand on se voit à travers un double grossissante, j'étais grosse. Je me percevais comme étant grosse. Puis je me rappelle, à l'époque, j'avais un chum, puis un moment donné, il m'avait dit, tu sais, Guylaine, fait que t'arrêtes de dire à quel point tu te trouves grosse, tu sais, dis, les autres autour de toi, je veux dire, ils sont pas la même taille que toi, puis ça va les amener à se sentir mal, mais j'étais tellement comme, quand il m'avait dit ça, j'ai dit, voyons donc, c'est moi la plus grosse de toute la gang, qu'est-ce que tu racontes, tu sais. C'est ça, c'est vraiment comme une déformation qu'on a de se voir. Enfin, c'est pas objectif, c'est très subjectif, cette impression. Puis c'est ça qui est dommage, puis que je trouve justement en travaillant avec les gens qui ont des troubles alimentaires, c'est que où est-ce que ça devient vraiment problématique, c'est quand on est dans une société grossophobe, où est-ce que le médecin nous demande de perdre du poids et on se voit plus gros qu'on est. Et en plus, on se fait renvoyer l'image que, en effet, on est trop gros. Fait que là, on n'arrive plus à rebalancer puis d'avoir une petite brèche à l'intérieur de notre tête, comme moi, le commentaire de cette ex-là qui était comme, mais comment ça se fait qu'il me dit ça? Tu sais, comme, comment il peut ne pas voir que je suis la plus grosse de la gang? Et d'avoir constamment des commentaires autour de personnes qui ont un poids normal, que les gens vont faire comme être un poids normal, ça amène quelque chose qui est un peu perturbant pour la personne qui a le poids normal, mais quelque chose qui résonne. Mais dans notre société, maintenant, qui est tellement obsédée sur le poids et sur l'image, comme je dis, dans cette société grossophobe, les personnes qui vivent avec un corps plus gros, ils n'ont pas la possibilité de se faire, d'avoir ce regard qui dit, ben, peut-être que tu te perçois encore pire que tu es parce qu'il y a quelque chose dans ton cerveau qui a besoin d'être travaillé pour t'amener à pouvoir être satisfaite de l'image corporelle que tu as.
Quelque chose dans ton cerveau qui a besoin d'être travaillé pour refaire l'image corporelle. Tu peux-tu m'en parler de ce quelque chose-là dans le cerveau qui a besoin d'être travaillé?
En fait, quand on parle de troubles alimentaires, on parle de ces différentes voix hein, qu'on entend. Puis, tu sais, même, on va, puis, tu sais, honnêtement, on le simplifie en disant la voix du trouble alimentaire puis la voix saine. Quand la voix du trouble alimentaire parle très fort, la voix saine parle très peu fort. On sait maintenant qu'il y a plus que juste deux voix dans notre tête. Il y avait Dr. Marquis qui a écrit le livre « Pensouillard, le hamster ». C'était comme, il y a une famille de hamsters, il n'y en a pas juste un. C'est comme toutes ces espèces de rouages ou ces croyances, ces pensées limitantes, ces fausses croyances qu'on a par rapport à qu'un corps devrait avoir l'air, comment on devrait fonctionner. C'est comme toutes des espèces de règles rigides qui sont installées avec ces voies neuronales, dans le sens quand on pense il y a un filon comme une autoroute qu'on peut imaginer, c'est neuronal que le chemin, mais plus il est emprunté, plus la voie élargie de construction, de mode de pensée qui deviennent comme des vérités qu'on a à propos de nous, à propos de la vie, à propos des gens. Puis je veux dire, c'est normal dans le construit d'un être humain, dans le sens qu'on réinvente pas la vie à chaque matin qu'on se lève, ça aurait juste pas de bon sens. C'est juste que quand nos pensées sont erronées, qu'on n'a pas l'espace pour pouvoir dire « Ah, je suis en train d'imaginer quelque chose, mais dans le fin fond, je dois me douter parce que ce que je perçois qui est une réalité, c'est pas la réalité, c'est ma réalité. » Et je peux même la modifier pour que ça devienne plus ma réalité de percevoir les choses autrement. Donc, c'est vraiment ces autoroutes neuronales qui doivent être déconstruites pour commencer à créer des petits chemins de campagne, des petits chemins dans la boue au début, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus la voie empruntée, qui amène à changer la perception qu'on a par rapport à nous.
Et comment tu fais ça, ce travail-là, d'aller débroussailler les chemins de campagne?
Ben, c'est d'aller commencer par rétablir, justement, comme je disais, les pensées limitantes, les fausses croyances. Qu'est-ce qui est là? Comment est-ce qu'elle est bâtie, ma charpente? T'sais? Donc, il y a différents exercices. Comme un exercice que j'aime beaucoup donner, c'est, mettons, tu as un grand but. C'est quoi les comportements que tu fais qui t'empêchent d'atteindre ce grand but-là? Par exemple, écouter mes signaux de faim. Donner cet exemple-là, j'aimerais pouvoir manger quand j'ai faim, écouter mes signaux de faim, écouter mes signaux de satiété. Bon, qu'est-ce que tu fais qui fait pas que tu écoutes tes signaux de faim et satiété? Puis là, on pourrait donner l'exemple par rapport à l'image corporelle. Tu sais, j'aimerais avoir une meilleure image corporelle, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je suis en train de me critiquer, je me compare. Donc, si on l'amène avec la bouffe, c'est comme, ben, j'écoute pas quand j'ai faim, je mange sur le pouce, je prends pas le temps de me préparer des aliments, je mange devant la télé, des fois, j'ai des émotions, je vais manger mes émotions. Donc, et ensuite de ça, l'autre étape, c'est de dire, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire pour arriver à ton grand but? Ce serait quoi les comportements que tu pourrais t'imaginer faire qui te permettraient d'arriver à ton grand but? Et là, ben, les personnes vont dire, ben, par exemple, attendre que j'ai faim. Tu sais, souvent, les gens, ils s'attrapent en disant, mais je sais pas comment. Puis dans les faits, on sait beaucoup plus qu'on pense le comment, tu sais, de pas avoir un discours envers moi, tu sais, avoir des paroles positives par rapport à mon corps, porter des vêtements que j'aime, arriver avec des amis qui plus regarder leur personnalité puis rentrer dans la conversation au lieu d'être en train de me comparer puis me dénigrer puis de regarder ce que les autres portent puis de ce que je regarde pas. Fait que, tu sais, de mettre ces comportements-là, de faire comme, ah, dans le fond, c'est pas mal une bonne idée de ce qui serait à faire. Puis après ça, c'est là que la magie opère de toutes ces structures mentales-là, c'est d'aller voir, mais dans le fond, qu'est-ce qui m'empêche de faire ces comportements-là? Et c'est là que les peurs se manifestent. C'est là que j'ai peur que si, je sais pas, moi, je mange pas devant la télé, ben, que je vais me retrouver à ressentir des choses que je veux pas ressentir, ou je vais me retrouver à avoir, je vais vivre mes émotions, ou j'ai peur de me retrouver tout seul. Donc, je m'arrange pour absolument tout le temps mettre des gens dans ma vie parce que je veux pas me retrouver toute seule. Donc, ou j'ai l'impression que si, j'accepte mon corps, je m'abandonne. Donc, toutes les craintes, les affaires qui sont en arrière de des croyances que si je fais le comportement qui m'aiderait à arriver à mon but, mais dans le fin fond, il y a une catastrophe qui est liée à ça en arrière. Une fois qu'on identifie les peurs, ben, c'est de là qu'on peut vraiment aller déconstruire la peur, parce que, tu sais, on s'entend que la peur est dans un espace qui est pas nécessairement aligné avec la réalité. Puis on travaille les peurs, on travaille aussi des idées. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai comme impression? Pourquoi mon comportement est le comportement que j'ai maintenant? Parce que j'ai une croyance. Donc, c'est quoi les croyances que j'ai par rapport aux gens qui ont un surplus de poids? C'est quoi les croyances que j'ai par rapport aux gens? Par exemple, si j'ai peur d'être considérée comme paresseuse, par exemple. Mais c'est quoi la croyance que j'ai des gens que moi, je considère paresseux? Fait qu'on réalise que tout ça est comme dans un genre de système bien encadré de croyances, puis de peurs, puis de choses qui s'activent, qui m'empêchent finalement de juste être capable de manger quand j'ai faim. Donc, la peur de commencer à manger puis de pas arrêter est très présente chez les gens qui ont une relation difficile avec la nourriture, par exemple. Donc, et qu'est-ce que j'ai comme croyance des gens qui n'arrêtent pas de manger? Ben, c'est qu'ils sont lâches, qui n'ont pas de volonté, puis je veux surtout pas être cette personne-là. Fait que ça maintient toute une espèce de charpente, que comme toutes sortes de choses qui se passent, comme j'appelle ça comme aller voir le marionnettiste, c'est comme on est comme la marionnette, puis d'aller voir le marionnettiste, puis déconstruire, et là, qui active dans le quotidien, puis qui nous empêche d'arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite.
J'ai un fils qui veut, de presque 17 ans, un ado, donc entouré de belles adolescentes, toutes jeunes, toutes pimpantes, toutes belles. Et mon fils me disait, il dit, « Mom, il dit, j'ai pas une amie qui se trouve pas grosse.
Mm-hmm. »
Puis, il me raconte parfois qu'il y a ses amis qui ont déjà perdu connaissance parce qu'elles veulent pas manger. Puis tantôt, tu disais, manger, c'est comme un luxe. C'est quand t'es là-dedans. Fait que ça commence jeune, ce message-là, puis cette auto-flagellation face à notre corps, face à ce qu'on est.
Oui, puis, tu sais, jeune, tu sais, comme dans mon cas, ça a commencé comme ça, tu sais, à sentir que je devrais moins manger. Puis à un moment donné, ça bascule, puis ça devient de manger trop, tu sais. Puis c'est ce qui m'a amené justement avec le temps de travailler qu'avec les gens qui mangent trop. Donc, c'est dans les excès alimentaires et non pas dans la privation, parce que comme deux façons d'aborder le travail tellement différents que j'ai préféré m'orienter vers les excès alimentaires plus que vers la sous-alimentation, mais tellement de personnes passent par une étape où est-ce que quand t'es jeune, t'essaies de te priver, puis pouf, à un moment donné, ça bascule vers les excès, puis de, justement, cette idée de transmettre le message, de dire, on est juste en train de pelleter par en avant des problèmes quand on n'apprend pas à honorer son corps dans tout ce qu'il est, tu sais, dans le sens comme, se nourrir, c'est honorer son corps. Notre corps a besoin d'être nourri autant qu'il a besoin de respirer. Je veux dire, on pensait jamais se restreindre en oxygène. Ça serait comme insensé. Pourtant, si on pense à notre corps, à quoi il sert? Je veux dire, on respire pas pour remplir nos poumons. On respire pour que nos poumons amènent l'oxygène dans chacune de nos globules rouges qui les amènent. En fait, c'est juste un système de transport qui amène ça à nos 54 milliards de cellules qui composent notre organisme. C'est la même chose pour le sucre qui va rentrer, qui va être encore là, transporté. Le côté délicieux, bon, savoureux de la bouffe, c'est une étape, mais c'est pas la finalité. La finalité est de permettre de nourrir chacune de nos cellules et c'est d'honorer notre corps, de permettre à nos cellules d'avoir l'énergie dont elles ont besoin pour faire leurs fonctions qui nous permettent de vivre. Et c'est dommage que cette information-là soit pas plus transmise parce que c'est ça, c'est comme tout est autour de la minceur, de la santé autour de la minceur, puis comme à quel point la minceur est symbole de santé, quand on n'en voit pas les... Tu sais, quand notre système de transport permet pas aux nutriments de se rendre à nos cellules, il n'y a rien de santé là-dedans. Là. C'est même l'inverse de la santé. C'est dommage parce que justement, comme tous ces jeunes aujourd'hui dont tu parles, qui se privent, ça ouvre la voie. Je dis pas qu'elles vont toutes se retrouver à avoir éventuellement des pertes de contrôle, mais c'est de risquer ce comportement qui peut arriver plus tard, qui aurait pu être arrêté dès le début en apprenant justement à dire ben tous les corps sont beaux, toutes les formes de corps sont parfaites, et c'est notre travail à nous de traiter notre corps avec la l'attention, l'amour, le respect dont il a besoin, dans le sens pour pouvoir justement être au maximum de ce qu'il peut être. Puis dans le fond, notre corps nous permet de faire l'expérience de nos sens, nous permet de faire l'expérience de la vie. C'est ça que ça fait, tu sais, c'est pas à être mince.
C'est bien dit, ça. C'est comme le but de la vie, le but de l'expérience, c'est pas d'être mince, c'est de pouvoir faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui donnent un sens à notre vie.
Complètement, ouais. Comme moi j'étais à l'époque, c'est de croire, de dire oui, mais je peux pas imaginer donner un sens et faire des choses dans ma vie qui vont me nourrir émotionnellement dans un corps qui est pas OK. Mais ça, c'est une fausse croyance, c'est pas vrai. On peut faire toute cette expérience de la vie avec le corps qu'on a. C'est ça, dans le fond, le message.
On peut faire toute l'expérience de la vie avec le corps qu'on a. C'est bien dit, c'est bien dit. Guylaine, tu travailles beaucoup, toi, avec l'alimentation intuitive et tu viens de nous dire aussi que tu travaillais avec les gens qui mangent trop plutôt qu'avec ceux qui mangent pas assez. Alimentation intuitive, ça n'a rien à voir avec des diètes, là.
Non. Non, c'est même, je dirais, en fait, on appelle ça justement, quand on parlait de nouveau paradigme, c'est vraiment l'adage qui dit, tu sais, répéter toujours la même chose, la définition de la folie, c'est toujours refaire la même chose en espérant un résultat différent. Tu sais, si on prend, parce qu'on peut, hein, puis on peut, beaucoup de gens, puis même, je peux dire, comme à l'époque, quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, je me suis fait prendre dans le piège aussi de utiliser l'alimentation intuitive comme une autre technique ou une autre façon de perdre du poids. Alors que, ben, si on essaie de perdre du poids par des restrictions, puis qu'après ça, on dit, ah, ben, je vais essayer de perdre du poids avec l'alimentation intuitive, on est en train encore de faire la même affaire en espérant un résultat différent. Tu sais, c'est tant et aussi longtemps qu'on maintient un contrôle externe, on est dans le trouble par rapport à notre relation avec la nourriture. Parce que c'est, tu sais, faut vraiment le comparer. Moi, je trouve que la meilleure comparaison qu'on peut se donner, là, c'est la respiration. Je veux dire, oui, je peux décider de retenir mon souffle pendant les prochaines 30 secondes, puis je vais être capable de le faire, tu sais. Si je décide à partir de maintenant de contrôler chacune de mes respirations, ma vie va devenir un enfer. Tu sais, je veux dire, je pourrais pas faire grand chose d'autre dans ma journée que de penser à respirer. Et dès que je vais arrêter d'espérer, de contrôler, ben, je vais me mettre à hyperventiler. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. On est complètement en train d'étouffer. C'est la même chose par rapport à l'alimentation. Donc, tant ou si longtemps qu'on pense que par notre tête, on doit contrôler, on est en train de mettre une pression sur un système qui est capable de s'autoréguler. Et c'est vraiment l'idée de dire, c'est pas qu'il n'y a pas de contrôle. Puis souvent, les gens entendent l'alimentation intuitive comme pas de contrôle. T'sais. C'est pas qu'il n'y a pas de contrôle, c'est qu'on redonne le contrôle au corps. C'est le corps qui me dit quand il a faim, c'est mon corps qui me dit quand il n'a plus faim, et c'est mon corps qui me dit ce dont il a envie de manger. Et à travers cette observation, parce que l'alimentation intuitive s'en chasse dans un autre mode de pensée, je dirais un peu plus large, qui est la pleine conscience. Donc, en m'observant, donc je deviens comme le témoin qui s'observe manger et qui observe ses envies. Donc, j'observe mes envies, puis je réalise que j'ai tout le temps envie de manger des chips, par exemple. C'est quoi mon rapport aux chips exactement? T'sais, est-ce que je me dis c'est plein de gras, c'est plein de sel, puis c'est mauvais pour ma santé, restriction cognitive, qui met une pression sur mon corps, qui fait que ben je me dis à chaque fois que j'en mange que je devrais pas en manger, puis dès que je mange quelque chose que mon centre de plaisir me dit c'est bon, puis je me dis je devrais pas être en train d'en manger, ben automatiquement j'ai encore plus envie d'en manger. Donc c'est d'aller nettoyer les place dans mon cerveau, encore là, quand on parle de nettoyage du cerveau, c'est pas juste au niveau de l'image corporelle, c'est aussi beaucoup par rapport au lien avec la nourriture, de faire comme, mais dans le fond, les aliments devraient être vus tous sur le même pied d'égalité, dans le sens que c'est tous des choses qui me permettent de donner de l'énergie à mes cellules.
Mais après, ça, c'est dur à faire dans une société où on est surinformé. Parce que nutritivement, on sait que le sac de chips n'a pas la même valeur que le brocoli ou le bœuf bio, là. Fait que...
Exactement. Et c'est là l'importance, encore là, comme je dis, de vraiment considérer comme le corps humain comme intelligent. Parce que, tu sais, on a l'impression que le cerveau, c'est notre néocortex est donc brillant, puis que le corps est un peu comme juste de même. Tu sais, mais il y a l'intelligence du corps. Puis quand je dis, tu sais, c'est vraiment dans cet espace de pleine conscience, de dire, ben si je me dis que c'est pas OK de manger des chips, je vais avoir plus envie d'en manger. Donc, c'est contre-intuitif sur les messages de santé publique qu'on entend, de dire, ben manger des fruits, manger des légumes. C'est juste que manger des fruits, manger des légumes, si je me dis je mange des fruits et des légumes pour nourrir mes cellules, mais c'est pas agréable, puis qu'est-ce qui est bon, c'est le sac de chips, mais lui, il faut pas que je m'en approche trop parce que c'est pas bon pour ma santé, ben finalement, je me retrouve à manger bien plus de sacs de chips que je vais me retrouver à manger de fruits et de légumes qui produisent du grain entier. Donc, à partir du moment où je remets tous les aliments sur le même pied d'égalité, c'est là que le cerveau sert. C'est dans le sens que là, tous les aliments sont sur le même pied d'égalité, puis là, je peux faire des choix. Et je peux faire le choix de dire, bon, mais je vais manger des produits de grains entiers parce que je sais que ça c'est bon pour moi. Donc cette connaissance là, elle n'est pas inutile, c'est pas de dire servez-vous en pas puis allez-y juste de même. Encore là, c'est souvent dans les messages autour de l'alimentation intuitive, c'est vu comme noir et blanc, c'est comme si soudainement le cerveau avait plus de place du tout pour intervenir, puis dire ben je le sais que manger des fruits c'est bon pour ma santé, j'ai envie de manger par exemple, je sais pas moi, j'ai autant envie de manger un muffin que j'ai envie de manger une salade de fruits. Ben, je peux faire le choix de manger ma salade de fruits, ou j'ai autant envie. Puis c'est drôle parce que comme depuis, ça fait plus que 20 ans que je travaille là-dedans. Puis à un moment donné, tu sais, tout le temps des clientes qui arrivent en faisant comme, ah, j'ai eu une révélation. Tu sais, une personne me disait, j'étais dans un buffet, puis il y avait une fontaine de chocolat, puis elle dit, il y avait des poires coupées, puis elle dit, j'étais à côté, puis je m'observais, puis la fontaine de chocolat était là, puis elle était comme, j'avais pas envie de manger de chocolat à ce moment-là, j'avais envie de manger des poires, puis c'est comme si tout le son être était comme, mais ça se peut pas, tu peux pas comme avoir le droit de manger du chocolat, puis choisir de pas en manger. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on est dans cet espace de choix, où est-ce que c'est comme, bon, là, dans son cas, elle avait pas envie de chocolat, mais quand on n'est plus dans l'espace de privation, on peut faire le choix de dire, bon, mais j'ai autant envie de manger un gâteau, je vais choisir de manger la poire aujourd'hui parce que c'est ça que j'ai le goût de manger, point. Et ça, c'est la première étape. Donc, cette observation-là, d'arriver à pouvoir faire des choix, puis des fois de choisir de manger le chocolat. Puis quand on choisit de manger le chocolat, puis qu'on n'a pas le petit singe en arrière de notre tête qui dit « tu devrais pas être en train de le faire », ben à un moment donné, on est rassasié, puis on passe à d'autres choses, puis la quantité va être une quantité qui va être comme tout à fait correcte pour ce qu'on a besoin à ce moment-là. Donc, et l'autre étape, en arrière de ça, ben c'est tout l'aspect émotionnel, de dire « bon, mais est-ce que je suis en train de manger en ce moment parce que ça m'apaise, parce que ça me sécurise, parce que j'ai besoin d'avoir cette… » Tu sais, quand on parle de tout le côté « comfort food », est-ce que je suis en train de manger pour me nourrir? Donc, c'est de là que dans cette idée de dire « j'écoute mon corps et mon corps va aussi, malheureusement, on va le mettre de même ». Gérer ses émotions par la nourriture, tu sais, gérer ses émotions par toutes sortes d'affaires, mais entre autres par la nourriture pour beaucoup de gens. Et la stratégie qui est souvent employée quand les gens réalisent qu'ils mangent leurs émotions, c'est de dire, ah ben là, maintenant, moi, je mange mes émotions quand je mange des chips, il faut plus que j'achète de chips. La raison pourquoi on mange des chips, c'est pas parce que les chips ont un problème, c'est que je suis pas capable de gérer mon émotion autrement qu'en mangeant des chips. Donc là, le travail devient à apprendre à tolérer l'inconfort émotionnel, vivre l'émotion, puis de considérer que l'émotion, c'est un messager. Donc, si je suis en train de vivre une émotion puis je l'écoute pas, ben j'ai tout intérêt à apprendre à l'écouter pour savoir ben qu'est-ce qui va pas dans ma vie qui génère cette émotion-là, puis après ça, agir sur la croyance ou la situation, parce que des fois, on peut avoir des émotions parce qu'on croit que quelque chose va se passer ou parce qu'il y a une situation qui est problématique dans notre vie. Et de là, ben on arrête de fusionner l'inconfort émotionnel avec la prise alimentaire.
Le sac de chips. On assiste depuis quelques années aussi à un phénomène qu'on appelle l'orthorexie, le correct puis le pas correct, le bon. Puis tu parlais du petit singe qui va venir nous taper dessus, là, mm-hmm. Mange un sac de chips. C'est rendu, c'est fort l'orthorexie. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est surinformé qu'il y a beaucoup d'informations sur l'alimentation, puis il y a beaucoup de modes et il y a beaucoup de courants de fond aussi qui tiennent la route. Mais tu sais, cette petite voix-là fatigante que je connais bien, oh, mais là, tu devrais pas manger ça. Tu sais, cette voix contrôlante-là, tu sais, qui est restreignante, elle veut pas qu'on aille de fun, là. Tu sais, elle veut pas qu'on soit libre non plus.
Non, c'est même dangereux, en fait, tu sais, quand on amène, c'est toute la notion justement quand on va jusqu'au trouble alimentaire, parce que quand on parle d'orthorexie, on est dans le continuum, c'est dans le sens que tout est par rapport à la relation avec la nourriture, c'est tout est dans un continuum, c'est l'alimentation intuitive d'un bord, puis là, les troubles alimentaires de l'autre côté, puis on est dans une échelle en quelque part entre les deux ou clairement chassé d'un côté ou de l'autre. Mais justement, c'est parce que ce qui t'sais, on vit dans une société où est-ce que c'est tellement bien vu. Tu sais, quelqu'un qui va pas manger de dessert va être félicité par les gens autour. C'est comme, wow, t'as vraiment, tu sais, t'es capable de t'empêcher de manger ça. C'est comme, bravo. Fait qu'il y a énormément de gains au niveau de la reconnaissance des gens autour et de la personne elle-même. Donc, tant qu'elle est dans son côté comme très clean de manger, de pas manger aucun aliment qui dérive des règles qu'elle s'est imposées, elle vit un sentiment de sécurité parce qu'elle est en train de faire la chose qui est OK pour sa santé. Contrôle. Les messages sont envoyés comme étant comme tu fais la bonne chose, fait que la personne n'est pas en train de se dire qu'elle est en train de faire quelque chose de pas correct. Et il y a aussi tout le renforcement autour. Donc, c'est excessivement difficile de se sortir de ce grand gain. Et à un moment donné, c'est parce que ça bascule, puis là, ben, de la fierté, ça vire en prison, ou est-ce que là, les choix alimentaires deviennent de plus en plus restreints, ou est-ce que l'impression de pas être correct devient vraiment de plus en plus grand, jusqu'au point où est-ce que la personne elle sent comme complètement prisonnière de sa relation avec la nourriture. Mais comme je dis, c'est comme tout le continuum. Certaines personnes vont jamais aller jusqu'à se sentir se sentir prisonnière parce que la peur ou l'effet négatif de dériver est tellement obsédant que c'est pire de s'imaginer dériver que l'inconfort de la prison d'être dedans. Donc ça c'est excessivement difficile pour les personnes qui vivent avec cette réalité là.
C'est fascinant ce que tu es en train de raconter là. Le confort de la prison est plus grand que l'inconfort qui va venir si on mange l'aliment qu'on pense qui va nous rendre mal.
Exactement.
Wow. OK.
C'est perdant-perdant.
C'est perdant. Non, en effet, c'est perdant-perdant. Tu as parlé du continuum, donc l'alimentation intuitive, les troubles alimentaires. Dans ton univers à toi, dans ton monde à toi, comment est-ce qu'on mesure ça, un trouble alimentaire? Moi, quand est-ce que je sais si j'ai un trouble alimentaire?
Ouais, ben, tu sais, on peut se faire diagnostiquer, là, clairement, notre cher compendium de maladies mentales, il y a comme des critères, mais tu sais, quand on est du côté clinique, comme moi, de toute façon, je veux dire, comme nutritionniste, je peux pas diagnostiquer personne anyway. Puis honnêtement, tu sais, je veux dire, quelqu'un vient chez nous, ce qui est surtout important, c'est de regarder l'intensité de la douleur, tu sais, comme est-ce que ça prend de la place dans ta vie, est-ce que c'est là, puis c'est présent, puis t'aimerais que ça soit moins présent, puis que ça soit comme même plus là du tout. C'est pas mal ça qui est plus important, tu sais, parce que de dire toi t'as un trouble alimentaire franc diagnostiqué ou quelqu'un qui, ben moi ça prend beaucoup de place, mais finalement je score pas dans aucun des critères, comme pas une raison de dire bah ben toi continue ta vie puis continue à te restreindre parce que de toute façon t'es pas assez mal pris pour dire qu'on va t'aider. C'est vraiment pas ça l'idée. Puis de toute façon la façon d'intervenir est pas si différente, ben honnêtement, parce qu'on travaille sur ce qui se manifeste. C'est quoi les pensées limitantes, c'est quoi les fausses croyances, c'est quoi qui a besoin d'être ajouté dans l'alimentation qui est éliminé, ou comment rendre le comportement alimentaire juste normal, quel que soit l'endroit où est-ce qu'on se trouve dans le continuum, on va faire les mêmes actions.
OK. Ça fait quelques fois que tu parles de satiété. J'aimerais ça que tu nous expliques, parce que satiété, c'est en fait... Je remarque chez moi, chez des clients, des gens autour de moi aussi, on n'est pas toujours en contact avec notre faim puis notre satiété non plus. Des fois, on sent moins la faim. Des fois, pourtant, elle est là, pour le besoin de manger est aussi grand. Là, c'est toujours pas un luxe. Qu'est-ce qui fait qu'on est déconnecté? Mais en fait, comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à ça?
Ben, comme je disais tantôt, la première chose qui est importante, c'est de commencer à considérer que notre corps mérite cette première place. Tu sais, parce que on vit dans une société très intellectuelle où est-ce que faire des choses est plus important que de se nourrir. Je vais juste finir cette tâche-là puis je vais aller manger après. Tu sais, je vais juste faire ça puis après ça, tu sais, quand j'en parle, souvent les gens vont me dire que c'est le même pareil pour aller uriner. C'est comme je vais finir ça, je vais aller aux toilettes après. C'est se retenir de nos fonctions biologiques fait un peu partie du quotidien de la majorité des femmes.
Tellement, on pense que c'est normal.
Ah ouais, c'est ça, c'est juste bien normal. Je veux dire, comme on attend. quand on était jeune, on se faisait dire d'attendre, mais maintenant c'est autour de notre corps d'attendre. Puis c'est bien correct quand même, alors que ça ne l'est pas. De remettre notre corps en priorité, puis de c'est un peu comme pour n'importe qui a eu un enfant. Quand tu parlais de ton fils tantôt, de tes fils, j'ai eu une fille qui, à un moment donné, tu sais, c'est comme, je m'imaginais, tu sais, comme mère, que j'étais pour amener ma fille partout, puis que ça serait comme, elle s'adapterait à mon style de vie, tu sais, genre, ça n'a pas pris comme, que c'était comme, bon, mais clairement, je suis au service de la vie de ce petit bébé, tu sais. Puis c'est un peu ça, dans le sens de voir notre corps comme ce petit bébé qui a ses demandes, et que comme on laisserait jamais un bébé pleurer pendant 4 heures à pleurer sa vie parce qu'il a faim, ben c'est la même chose pour nous. Pourquoi on attendrait 1 heure, des fois 2 heures, parce qu'on a faim mais qu'on a
pas... Et souvent on s'en rend même pas compte.
Mais en fait, c'est, on s'en rend pas compte parce qu'on a déconditionné, parce qu'on vient, la réalité, c'est ça qui est aussi fascinant, c'est qu'on vient au monde. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait instinctif quand on vient au monde. Tu sais, le bébé, il est pas, tu sais, peut pas bouger, il peut pas parler, il est zéro autonome, puis pas autonome pendant longtemps. Il est là déjà, c'est sa capacité de savoir quand il a faim puis quand il est rassasié. Donc, on doit, pour qu'on arrive adulte comme on est, comme la majorité, là, comme 20% de la population seulement arrive adulte en étant capable encore d'écouter leurs signaux de faim et satiété.
20%?
Oui.
Alors, tu es en train de me dire qu'il y a 80% d'entre nous qui n'écoutons pas nos signaux.
Ouais, c'est fascinant. Quand on regarde ça, c'est épouvantable. Parce que on le déconditionne. Donc, c'est la seule façon. Donc, à se faire dire, comme je disais, on apprend quand on est enfant à pas s'écouter. On apprend quand on est enfant à manger plus que nos besoins. Finis ton assiette si tu veux du dessert. Alors que les enfants, naturellement, hein, sont capables de se laisser de la place pour le dessert. Ils vont vouloir se laisser de la place pour le dessert parce qu'ils ont envie de manger un aliment sucré. Puis quand on regarde dans le développement humain, c'est naturel. Je veux dire, le bébé, l'enfant, son cerveau est en plein développement. Le sucre est le nutriment par excellence pour le cerveau qui est en développement. Donc, c'est comme naturel que l'enfant ait une préférence pour le sucre. Puis on retrouve la même préférence chez les personnes âgées. Hein. Tu sais, c'est comme les deux les deux
okay.
Dans la vie. Hein. Ouais, ouais.
Mais parce il y a sucre là, et sucre encore là. Tu sais, c'est
complètement parce qu'encore là, le cerveau étant dans comme une personne âgée a un métabolisme plus ralenti. Donc encore là, le cerveau fait comme moi, je suis en priorité. Puis c'est il y avait un article que j'avais lu pendant que j'avais écrit mon premier livre Manger. Puis il l'avait intitulé The Selfish Brain, c'est genre le cerveau égoïste. Là, c'est comme il y a la mainmise de dire moi, je suis en priorité sur les besoins parce que j'ai besoin de consommer plus d'énergie pour la grosseur du cerveau. Il y a beaucoup d'énergie qui passe. Donc on trouve ça puis. Dans cette idée de dire ben finis ton assiette, l'idée est pas d'aider son enfant à développer des goûts puis à développer des préférences, puis tu sais ça fait toute partie du rôle du parent d'amener son enfant à développer son goût vers d'autres choses que le sucre qui est le côté comme plus spontané puis naturel, c'est de dire finis ton assiette pour avoir accès à ton dessert. Ben là on est en train de bousiller ces signaux internes que lui est en train de dire ben il n'y en a plus de place, tu sais. Fait que ce que l'enfant va faire, il va finir son assiette, puis là, il va manger son dessert en n'ayant pas faim, mais il va le manger pareil parce qu'encore là, l'appel est super fort. Mm-hmm. Puis, tranquillement, pas vite, sur des années, des années, des années, ben l'importance mise à cette écoute qui est si spontanée, si naturelle, se déconstruit, puis ben arrivé adulte, ben il faut le reconstruire. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que ça se reconstruit. Là, c'est
des autos oui, ça se fait, oui.
Oui, oui, tout à fait.
OK. Quand tu guides les gens dans l'alimentation nutritive comme ça, est-ce que tu vas dans les détails comme les macronutriments ou on laisse le corps complètement libre de nous amener là où il a envie d'aller?
Mais la première étape est beaucoup de travailler ce qui est consommé en trop grande quantité puis de normaliser ce qui est consommé en trop grande quantité. Donc, de tout ce qu'on appelle la restriction cognitive, les aliments interdits. Donc, on fait travailler vraiment à ce que ces aliments-là puissent retrouver leur place. Donc, pas qu'ils prennent toute la place, mais qu'ils retrouvent leur place.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ces aliments qu'on consomme généralement en trop grande quantité?
Ben, habituellement, là, les top 4, je dirais, là, chips, chocolat, crème glacée, là, comme ceux-là, on les a comme quasiment tout le temps. Puis le pain ou quelque chose dans le genre, là, tu sais, aliments sucrés vont souvent se retrouver dans le sommet de la pyramide, je dirais. Là. Ensuite de ça, ben ça peut varier selon l'expérience des gens. Tu sais, par exemple, ceux qui ont été beaucoup privés de pain vont avoir comme vraiment le pain va être très présent. D'autres personnes, ça va être le fromage. D'autres personnes, ça va être les charcuteries. Donc, on est dans ces eaux-là là, où la poutine, j'ai eu beaucoup de personnes que c'était les poutines étaient comme vraiment considérées comme étant des aliments à ne pas consommer. Donc, c'est vraiment de commencer à faire la liste, puis de faire la liste du pire jusqu'au moins pire. Pourquoi c'est important d'aller vers le moins pire? Parce que des fois, on réalise pas que, par exemple, une salade, c'est souvent l'exemple que je donne, tu sais, genre comme, ah oui, mais la salade, je peux en manger. Tu sais, comme qui dit que c'est pas OK de manger la salade, mais il faut qu'elle ait pas de noix, pas de fromage, pas de jambon, pas de vinaigrette, la vinaigrette à part. Fait que là, ça finit que la fameuse salade que d'emblée, on va tous se dire que c'est quelque chose, c'est un aliment sain à consommer, devient avec plein d'embûches, que c'est plus consommé comme on l'apprécie puis comme elle nous fait sentir bien, mais bien avec plein de critères. Et souvent, je dis, ben, commencez par ça. Un aliment que vous consommez, qui a même une connotation positive dans notre tête, mais de recommencer à la manger comme on l'aime. Puis, soudainement, ben, quand on commence à apprêter les aliments sains qu'on aime, ben, on commence à pouvoir recommencer à sentir dans notre corps. Parce que l'idée, c'est toute l'idée de l'expérience. C'est d'expérimenter que mon corps me dit, OK, t'en as assez. C'est de là que je peux commencer à faire confiance à mon corps, que quand je mange cet aliment-là, il va me dire que j'en ai assez. Quand tu parlais tantôt de ta satiété ou du rassasiement, c'est comme ça qu'on peut refaire vivre l'expérience, de dire, ah, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors que si je commence avec la crème glacée comme première expérience, je veux dire, ça va prendre des mois avant que je sente quelque chose. Puis à travers ça, je vais tellement être malheureux parce que je vais me dire, non, j'y arriverai jamais. On doit commencer par le moins pire pour la vivre, cette expérience-là, puis commencer à sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour faire confiance que je peux justement faire confiance à mon corps.
OK. Éventuellement, la crème glacée va garder sa place aussi?
Complètement. Puis c'est ça l'idée, c'est qu'à partir du moment où est-ce que je le réintègre, puis que là, je suis plus dans un espace où est-ce que je me dis la crème glacée, c'est la pire affaire à manger parce que j'ai pu faire l'expérience, j'ai pu manger de la crème glacée. Et j'ai pu sentir que mon corps, à un moment donné, me disait « OK, j'en ai assez », mais à partir de là, je peux faire confiance que la prochaine fois que je vais avoir envie d'en manger, bien, je vais savoir que mon corps va me le dire quand il y en a assez et je vais pouvoir faire confiance et en manger dans les quantités que mon corps a besoin et qui me donne le plaisir que j'ai besoin d'aller chercher parce que il y a des aliments comme ça que c'est on les consomme quand même. T'sais, on sait qu'on les consomme pas dans une idée purement nutritive. Là. On sait qu'on va les manger parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est dans un contexte qu'on apprécie et qu'on sait qu'on est en train de se faire du bien quand on est en train de le manger puis qu'il n'y a pas de risque au niveau de débordement, par exemple.
OK. Tu viens de parler d'aliments nutritifs. C'est souvent là que la dualité, le duel arrive parce qu'on sait tout ce qui est nutritif ou à peu près. Mais dans l'alimentation intuitive, t'es pas obligé de manger tes 8 portions de fruits et légumes par jour, là.
Non. Dans l'alimentation intuitive, en fait, on ramène beaucoup l'idée, justement, quand je parle de cette intelligence du corps, c'est que de comprendre que, dans le fond, il y a ce qu'on appelle des homéostasies. Tu sais, le corps fonctionne par homéostasie. Tu sais, on dirait, mettons, si on avait à donner une personnalité à notre corps, on dirait que, ou si on avait à y donner une étiquette de troubles mentaux, on dirait qu'il est névrosé, dans le sens que le corps est toujours en train de dire, c'est comme la saturation de l'oxygène, elle est toujours exactement la même, le pH sanguin est toujours le même, je veux dire, c'est comme ça que le corps fonctionne. Donc, quand il y a un débalancement, il y a des mécanismes qui rebalancent. Donc, par exemple, on a une homéostasie au niveau de l'énergie. Quand je dis non, on est un système qui livre l'énergie aux cellules. C'est à ça qu'on sert, dans le fond, quand on regarde ça au niveau biologique. C'est un peu réducteur, mais c'est ça qui se passe à l'intérieur de nous. Mais il y a comme le corps, là, ce qui est en manque d'énergie, va demander qu'on soit nourri pour pouvoir rétablir son niveau énergétique. Le niveau, la même chose, il y a une homéostasie au niveau émotionnel. On est des êtres d'émotion, donc encore là, s'il y a un problème au niveau émotionnel, le corps va essayer de calibrer. Et on a une homéostasie qu'on appelle nutritionnelle. Donc, la base du concept autour de l'alimentation intuitive, c'est que quand on n'a pas d'interdit alimentaire, quand on régule nos émotions, l'homéostasie qui prend le dessus, c'est l'homéostasie nutritionnelle et l'homéostasie énergétique. Donc, notre corps a cette intelligence à l'intérieur de lui. Puis comme je dis, on peut combiner ça avec des connaissances, mais que on est vraiment dans cet espace où est-ce qu'on travaille avec notre corps et non contre notre corps pour dire, ben, je fais confiance en ces désirs alimentaires pour aller nourrir, me donner l'énergie dont j'ai besoin. Puis les nutriments, puis les aliments, ben, je vais avoir envie de manger des aliments sains. Puis quand on regarde les études au niveau de l'alimentation intuitive, ça confirme la théorie dans le sens que les personnes qui mangent de façon intuitive vont avoir ce qu'on considère une alimentation plus équilibrée que la moyenne de la population. Donc, ça va confirmer cette, cette théorie qui dit qu'on a cette homéostasie nutritionnelle, que notre corps va nous donner envie de manger certains aliments, qui va fournir les nutriments dont notre corps sait qu'il a besoin.
OK. Est-ce que, en fait, comment l'alimentation nutritive peut s'appliquer à des gens qui ont des enjeux de santé? Moi, comme coach santé, je travaille, entre autres, avec des gens qui ont des enjeux de santé. Intolérance au gluten, dysbiose, autres, tu sais, c'est comme... Comment les deux peuvent se combiner?
Ouais, souvent, on a l'impression de dire, ah, ben là, si j'écoute mon corps avec ses envies, mais quand je parlais tantôt, justement, les envies... C'est pas comme noir ou blanc, tu sais, encore là, il y a comme toute la zone de gris. Et c'est dans cette idée de l'alimentation intuitive nous amène toujours dans un espace de choix. Donc, contrairement à une contrainte, quand je parlais tantôt du contrôle externe, quand je me dis, mettons, je souffre de maladie, tu sais, j'ai la maladie cœliaque, je peux pas, j'ai pas le droit de manger du gluten. Dès qu'on se met dans cet espace-là, on se met dans une place restrictive. Et comme j'ai tantôt, le centre de plaisir, lui, c'est le pire message qu'on peut y envoyer. Quand on est dans l'espace de l'alimentation ici, c'est je choisis. Je choisis ma santé. Parce que dans les faits, c'est pas vrai qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, si on l'amène même jusqu'à l'extrême d'une personne qui aurait une allergie sévère, ben, il fait le choix de rester en vie en mangeant pas l'aliment qui va lui donner son choc anaphylactique. Je veux dire, on s'enlève notre pouvoir tellement facilement. C'est-à-dire, dans le fond, je veux vivre. Comme si je veux vivre et si je veux être bien, puis je veux me sentir bien dans mon corps, bien dans mon ventre, ben je choisis qui va faire en sorte que je vais me sentir bien. Et ce choix, je le renouvelle à chaque fois que je mange. Et c'est là la grande différence avec l'alimentation intuitive, c'est que c'est pas comme une décision qu'on prend pour les 40 prochaines années. Tu sais, quand on est dans les restrictions, souvent c'est ce qui arrive. C'est genre, plus jamais je vais manger de tel aliment. C'est quand, ben oui, c'est ça. Tu sais. Mais si je renouvelle mon choix à chaque fois que je mange, ben c'est un choix libre et on vit la liberté à chaque fois. Puis, tu sais, je dis souvent comme, mettons, si on regardait une personne qui mange de façon intuitive, puis une personne qui se restreint, puis les deux personnes mangent la salade. Quand on les regarde de l'extérieur, ils mangent les deux de la salade. Mais leur expérience, une personne qui est mangeuse intuitive va manger la salade parce qu'elle apprécie, puis c'est ça qu'elle a le goût de manger, puis l'autre personne mange la salade parce qu'elle se contraint, puis elle se dit c'est ça qu'il faut qu'elle mange. Leur expérience va être à des années-lumière, l'une de l'autre, pourtant le comportement est le même. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile quand on en parle comme ça pour une personne qui a jamais goûté, je dirais, à l'espace de choix, de faire, mais c'est bien bizarre cette affaire-là, quoi qui se renouvelle, c'est quoi ça. Mais c'est pas l'action qui va être différente, dans le sens que dans une personne qui dit, moi, je mangerai plus jamais de gluten pour le reste de ma vie parce que je suis cœliaque, j'ai pas le choix, de la personne qui choisit à chaque fois de reconsidérer ton état de santé puis dire, ben, aujourd'hui, en ce moment, j'ai pas envie pas de mettre ma santé à risque parce qu'il y a des personnes qui ont la maladie cœliaque qui sont asymptomatiques, des personnes qui sont cœliaques très symptomatiques. Tous sont très symptomatiques de dire, ben, je choisis en ce moment que j'ai pas envie d'avoir les symptômes liés au fait de manger ça. Ben, l'expérience va être la même, les deux personnes vont pas le manger, mais le comportement va être le même, les deux personnes vont pas le manger, mais leur expérience de la situation va être complètement différente, où une personne est complètement libre et se sent bien dans son choix, et l'autre personne se sent contrainte, et c'est que beaucoup de gens, c'est une question de temps avant de finir par puis être capable. Et la réalité d'une personne qui est mangeuse intuitive, peut décider à un moment donné de dire, je fais le choix aujourd'hui de manger un aliment qui est pas dans la situation optimale, mettons, parce que j'ai le goût de manger, je sais pas, moi, un croissant ou quelque chose. Et quand c'est dans cet espace de choix, c'est que c'est pas une catastrophe. C'est comme la personne va complètement assumer si elle a des symptômes. Elle va complètement assumer et dire, bon, ben là, j'avais le goût, j'ai préféré le faire pour après ça recommencer.
Mais c'est pas pour tous les jours, tout le temps, trois fois par jour.
Et c'est exactement, ça fait pas que ça ne met pas un précédent. Puis la personne rumine ça pendant des semaines à dire pourquoi je suis allée faire ça. Et après ça, c'est juste oublier, c'est en arrière, puis on recommence à refaire le choix. Alors que lorsqu'on est dans la privation, dans la contrainte ou dans l'obligation, une fois qu'on triche, mettons qu'on le met de même, mais là, après ça, il y a toute l'espèce de discours interne, de tapage sur la tête, de dire pourquoi t'es allé faire ça, ça n'a pas de bon sens. Les symptômes ne sont pas acceptés parce que c'est comme la preuve de la faiblesse qu'on a eue à ce moment-là. Là, on commence à comptabiliser. Puis à un moment donné, quand on a trop de fois où est-ce qu'on a comme triché ou comme pas respecté le plan, ben on finit par faire, ben dans le fond, je me sens tellement pas bien tout le temps, être en train de me sentir mal de pas respecter le plan, je vais juste laisser tomber le plan, puis je veux juste plus le faire. Mm-hmm. Je vais arrêter de me mettre dans cet état-là qui me fait pas sentir bien. C'est là que les gens débarquent de leur bonne intention, qui était une intention valable à l'origine, de dire, ben, je veux prendre ma santé en main. Mm.
J'aime ça comment tu ramènes ça à la liberté puis au choix. Ça donne du pouvoir à l'individu, à la personne, plutôt que d'être dans la privation. Le choix de se faire du bien, il y a le plaisir, oui, manger c'est un plaisir, mais il y a aussi comment j'ai envie de me sentir. Exactement. Puis bon, en vieillissant, on remarque que quand on mange certaines choses, on se sent plutôt comme ça. Mm-hmm. Des fois, on l'assume, puis c'est correct. Mm-hmm. Des fois, le faire tout le temps, tu dis bon, le prêt à payer est pas mal cher, là.
Mm-hmm. Oui, puis quand on sort de la culpabilité, de juste faire comme, ah, tu sais, le prix à payer est pas mal cher, ben ça me tente pas de payer ce prix-là, puis je vais juste pas le faire. Parce que ça me tente pas là, demain, de me sentir de même ou plus tard de me sentir comme ça. Il n'y a pas de culpabilité, puis il n'y a pas de jugement, puis il n'y a pas de grand discours, puis il n'y a surtout pas de fierté. T'sais, c'est pas non plus comme yeah, j'ai résisté. T'sais, c'est juste comme j'ai pas envie de me sentir mal. J'ai pas envie de me sentir mal, c'est tout, on passe à d'autres choses. T'sais, c'est amené d'une façon vraiment plus légère que d'avoir comme toute une espèce de processus décisionnel qui vient avec ça.
Oui. J'aimerais ça, Esther, ben, d'une certaine façon, tu as commencé à l'aborder, que tu nous parles du sabotage. Dans mon contexte de coach santé, ça arrive parfois où des gens doivent suivre certains protocoles sur une durée X de semaines ou de mois. Et dès que ça commence à aller mieux, pouf! C'est comme, il y en a qui viennent saboter. C'est vrai pour cette clientèle-là, mais c'est vrai pour à peu près beaucoup de monde de se saboter. Qu'est-ce qui mène à cet auto-sabotage?
Bien, en fait, quand j'ai parlé tantôt là, de s'imaginer à son grand but, puis les comportements qu'on pourrait faire, puis les comportements qu'on fait, puis les comportements qu'on pourrait faire, puis qu'est-ce qui est en arrière, c'est vraiment dans cet espace-là d'aller débusquer le fameux sabotage. Tu sais, quand on m'a présenté cet outil-là, c'était dans le cadre d'un cours que je faisais en gestion à l'Université Laval, puis il lui présentait ça en disant, quand un cardiologue va annoncer à son patient, tu sais, comme si tu changes pas comme drastiquement ton style de vie, tu as des chances d'avoir un infarctus, puis il disait comme, je me rappelle plus exactement la statistique, mais c'est comme quelque chose genre il y a une personne sur 100 quasiment qui va changer ton comportement. Je me dis, mais comment ça se fait, tu sais, que considérant que là on n'est plus juste dans une idée de dire je veux améliorer mon style, tu sais, je veux améliorer mes chances de me sentir mieux, je suis confrontée à une conséquence vraiment grave. Et c'est vraiment ces peurs là qui s'activent, qui les peurs sont, ça peut sembler vraiment banal de dire ben si je suis pas en train de manger devant la télé, j'ai peur de m'ennuyer parce que je vais être comme connectée à mes émotions, puis j'ai tellement peur de l'ennui que j'aime mieux manger devant la télé parce que cette peur-là est trop présente. C'est profond pour la personne qui le vit. Et quand la personne elle se met en mouvement puis elle commence à faire les comportements positifs, ben elle est plus ces stratégies qu'elle utilisait qui compensaient émotionnellement ou de toutes sortes de façons dans sa vie sont plus là. Et qu'elle va vouloir, comme elle développe pas des nouvelles stratégies pour compenser autrement ce qui était là, ben à un moment donné, les vieux comportements reviennent avec les conséquences de ces comportements-là sur la vie de la personne.
Mmh. Ça fait des années que tu fais ce travail-là, donc tu as dû entendre ton lot de gens qui ont essayé toutes sortes de diètes puis qui ont fait le yo-yo comme ça. C'est quoi les conséquences physiques et psychologiques de ces diètes yo-yo-là? Les diètes
pour. Ouais, ben c'est ça. Quand tu sais, à chaque année, je fais une retraite de 3 jours, puis je commence la retraite en présentant justement les statistiques au niveau de ces conséquences-là du yo-yo, parce que tu sais, souvent on parle énormément des conséquences de surpoids, on parle très peu des conséquences du yo-yo et les conséquences du yo-yo sont très fortes dans le sens que augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, augmentation des problèmes, en fait, beaucoup liés aux problèmes cardiovasculaires. J'ai pas toutes les statistiques en tête, mais c'est vraiment assez fort comme impact au niveau même de la santé. Ça, c'est sans considérer l'impact au niveau aussi de l'estime de soi, tu sais, parce que la personne qui perd du poids, souvent, elle est très valorisée, très reconnue. Les gens vont la féliciter pour avoir mis autant d'efforts. Et comprend que c'est un peu délicat pour une personne qui reprend du poids, que les gens continuent à lui donner autant d'attention. Tu sais, je veux dire, la personne qui vit la reprise de poids puis qu'elle voit qu'il n'y a plus personne qui parle de son poids, c'est très bien que c'est parce que les gens voient bien qu'il se passe quelque chose. Puis ce sentiment d'échec, ce sentiment de pas être à la hauteur, ce sentiment d'avoir comme failli, là, tu sais, à se prendre en main, a un impact au niveau de l'estime de soi, assurément. Puis chaque reprise de poids vient avec cette croyance que, tu sais, la diète a fonctionné parce que la diète est bonne, mais j'ai repris le poids parce que je suis pas capable de maintenir la diète, alors que c'est la privation qui amène à l'excès. Sans privation, il n'y a pas d'excès. Donc, c'est dommage que ce soit pas vu comme parce que j'ai fait une diète, j'ai repris du poids. C'est parce que j'ai pas été capable d'avoir de volonté que j'ai repris du poids. Puis ça, c'est encore une autre fausse croyance que les gens portent énormément. Et souvent, ben, c'est comme ils attendent de ramasser assez de volonté pour repartir dans une autre diète qui les ramène encore au même point.
Tu peux-tu nous donner des statistiques sur l'efficacité ou l'inefficacité des régimes alimentaires?
Oui, l'inefficacité, ben selon les études, on se promène entre 84 % à 95 % puis même certaines diètes vont jusqu'à 99 % de reprise complètement du poids après 5 ans.
Donc, ça veut dire qu'entre 84 et 95 % des diètes ne fonctionnent pas sur le long terme. Ne
fonctionnent pas. Les gens reprennent tout le poids perdu. Puis, même une autre étude qui a démontré que 60 % des gens vont prendre encore plus de poids. Donc, il y a ceux qui reprennent le poids, puis il y a ceux qui prennent encore plus de poids. Puis la réalité, c'est que, tu sais, les gens vont faire plusieurs diètes dans leur vie. Hein. C'est rare une personne qui va faire juste une diète dans sa vie. Fait que l'expérience est plus que... Au fil des années, si on regarde le poids qu'on avait lorsqu'on a fait la première diète et le poids comme 10, 15, 20, 30 ans plus tard, habituellement, le poids est plus élevé que le poids d'origine.
Okay.
C'est malheureusement la conséquence directe d'avoir voulu perdre du poids.
OK. On n'en parle pas assez de ces statistiques-là. Ouais. OK. Juste avant, tu disais sans privation, il n'y a pas d'excès. Donc, c'est parce qu'on se prive que des excès. Puis inversement,
en partie,
mais on pourrait pas vivre dans l'excès tout le temps non plus.
Non, parce qu'en fait, c'est que il y a deux points. Comme clairement, si on mange pas assez, on risque de manger trop. Si on se prive d'aliments dans notre tête, on risque de manger trop. Et l'autre point que lui a rien à voir avec les privations, c'est les émotions. Notre façon de gérer nos émotions. Et on gère nos émotions par la nourriture, ben là, qu'il y ait de la privation ou non, on va gérer nos émotions par la nourriture. Fait que celui-là, il est enlevé de ce calcul-là. Mais dès qu'on met de la privation, on va avoir des excès. C'est juste une question de temps. Donc, certaines personnes vont être capables de faire ça pendant une journée, puis d'autres personnes qui vont être capables de faire ça pendant 20 ans. Mais à un moment donné, les gens arrivent plus à maintenir la privation. C'est vraiment dommage.
Okay. On s'est parlé avant de faire l'entrevue, puis tu me dis quelque chose qui m'a vraiment marqué, et j'aimerais que tu élabores là-dessus. On ne peut pas choisir notre poids. Il y a tellement de monde qui veulent décider, il faudrait que je pèse tant ou entre ça, puis ça. Et toi, tu arrives, puis tu nous dis exactement le contraire. On ne peut pas choisir notre poids.
Non, puis c'est, tu sais, on a un poids naturel que la nature a prévu pour nous. Puis tu sais, je veux dire, on le voit tellement, tu sais, quand on regarde, tu sais, genre les gens m'en parlent, tu sais, genre, ah, nous dans notre famille, on a toutes des morphologies X, tu sais, on a tout le bassin plus large, ou on a toutes les épaules plus larges, ou on est toutes faites costauds. Tu sais, c'est comme, on est capable de le voir par rapport à une morphologie. Puis c'est comme si soudainement le poids est comme par rapport là-dedans. Tu sais, c'est comme, mais tout est ensemble. Et dans cette idée-là qu'on a un poids naturel ou une morphologie naturelle, notre travail, c'est de l'accepter et de vraiment honorer ce que la nature nous a donné au lieu d'espérer faire un tour à la nature puis être en bas de ce que le poids naturel que le corps nous a prévu pour nous. Et dès qu'on essaie d'être en dessous du poids naturel, ben ça peut juste plus partir par le haut.
Mm-hmm. il y a en dessous du poids naturel puis au-dessus aussi du poids naturel.
Ben c'est ça, dans le fond, l'idée, c'est pour ça que l'alimentation intuitive est toute dans l'idée d'aller dire, ben comme, OK, si je suis au-dessus de mon poids naturel, je peux aussi regarder ce qui est là au lieu de faire une diète puis d'essayer de maigrir coûte que coûte, de dire, ben qu'est-ce qui est là dans mon comportement alimentaire que je pourrais réaligner plus vers cette écoute de mon corps et de travailler, justement, comme je disais, rendre les aliments tout égaux puis de gérer mes émotions d'une façon saine et non par la nourriture.
Mm-hmm. En terminant, Guylaine, j'aimerais ça entendre ta pensée sur... Il y a la restriction, il y a l'image corporelle, il y a l'orthorexie, mais il y a aussi la peur d'être malade. Tu sais, c'est comme mm-hmm. quelqu'un, c'est mon cas, où pendant des années, il fallait que je fasse attention à ce que je mange. Puis là, tu sais, après ça, il y a la peur qui se développe face à certains aliments. Puis tout le côté psychosomatique aussi là-dedans qui embarque par rapport à l'alimentation. On s'en est parlé brièvement pendant qu'on préparait notre entrevue. Mmh. J'aimerais ça que tu élabores là-dessus.
Ouais, parce que ben tu sais comme justement quand on a préparé l'entrevue, je parlais de mon expérience au Bénin où est-ce que j'ai été malade, puis qu'après ça, chaque fois que je me mettais un aliment dans la bouche, j'avais peur de retomber malade. Puis je me disais, hey, c'est vraiment pénible quand on a justement des maladies, surtout des maladies de type, tu sais, quand des personnes ont des maladies digestives, ça amène un lien avec la nourriture qui peut être très 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 stressant. Je veux dire de devenir vraiment stressé à manger. Puis la, tu sais, je dirais dans ce cas-là de pas hésiter à aller consulter des personnes qui peuvent aider parce que souvent les gens vont arriver par exemple à ma clinique qui ont une espèce de liste là, infinie d'aliments qu'ils disent qu'ils tolèrent pas parce que une fois ils étaient stressés, ils ont mangé cet aliment-là, puis ils ont eu la conséquence physique, puis ils disent ok j'enlève cet aliment-là de mon alimentation, ça finit que puis c'est pas parce que la personne elle voulait se restreindre parce qu'elle voulait maigrir, c'est vraiment parce qu'elle a eu des conséquences physiques de la prise alimentaire et de tranquillement pas vite justement d'aller voir bon mais quand on parle d'allergie c'est un autre discours mais quand on parle plus de l'intolérance beaucoup de gens vivent avec des restrictions beaucoup plus grandes face à certains aliments qui s'interdisent de manger par rapport à des intolérances qui pourraient mettre un petit peu plus dans leur alimentation dans des doses qu'ils peuvent tolérer donc c'est Et pendant qu'on fait l'exploration, ben comme c'est un aliment qui amène des conséquences, je dirais plus gastro-intestinaux pour certaines personnes, c'est de toute façon quand ils en mangent trop, ils se retrouvent anyway avec les conséquences. De dire ben comment on peut calibrer puis d'apprendre à ce que la personne se connaisse, de dire ben effectivement si je mange cet aliment-là dans un moment dans ma vie, je suis plus stressée, je risque d'avoir plus de conséquences. Quand ça va bien, je suis plus capable de tolérer. Puis toute cette idée d'apprendre à se connaître et savoir comment on réagit aussi au niveau de la tolérance, c'est intéressant de se dire, mais il y aurait peut-être la place pour pouvoir intégrer certains aliments que je mange plus parce que je me dis que je peux pas les manger, alors que dans le fond, ils pourraient être consommés. Mais je vous dirais, dans ce temps-là, n'hésitez pas, si vous êtes inquiète, de consulter. Tu sais, il y a des nutritionnistes qui sont spécialisés en maladies digestives, d'être accompagné par une nutritionniste spécialisée là-dedans pour vous rassurer, peut-être de faire chaque pas dans la bonne direction pour être capable d'avoir un peu plus de plaisir à manger. Parce que l'être humain, à la base, aime la variété. Et quand on se restreint, qu'on finit, qu'on n'a plus beaucoup de variété alimentaire parce qu'on a peur de manger les autres aliments, mais on se prive d'un grand plaisir aussi.
Et probablement aussi qu'en réglant en explorant nos différents traumatismes qui parfois ont des liens face à l'enfance. On n'aime pas le beurre de peanut parce qu'il s'est passé quelque chose d'horrible la dernière fois que j'en ai mangé. Mais ouais. Ça, on peut mm-hmm. retrouver, on peut défaire ces patterns-là.
Complètement.
Ouais, OK. J'avais dit dernière question, mais j'aimerais ça 2 secondes que tu nous parles du stress, l'impact du stress sur nos signaux de satiété, de faim et sur notre façon de manger.
Ouais. Ben, je vais essayer de répondre rapidement à cette grande question. Parce que le stress, je peux vous dire, c'est comme mon grand dada. Là,
vas-y, t'as tout ton temps. Prends ton temps.
Parce que l'impact du stress dans la relation avec la nourriture, elle est comme tellement intime. Tu sais, on vit dans une société où est-ce qu'on est stressé. Je veux dire, et soit que certaines personnes, la faim va être coupée, ce qui est naturel. Tu sais, je veux dire, un ours me court après. Théoriquement, je devrais pas dire « Attends 2 secondes, je vais prendre mon bol de cornflakes. » Je veux dire, ça devrait être « Je me sauve pour ma vie. » une réaction. C'est juste que, encore là, de dire, bon, ben oui, la réaction de pas avoir faim lorsqu'on est stressé est la réaction, je dirais, physiologique naturelle. Ceci dit, ben il n'y a pas d'ours. Bon, les ours sont dans notre tête.
Il n'y a pas d'ours. Oui, il y en a beaucoup dans mes camps.
Toujours en train de réagir, avoir l'appétit coupé parce que c'est difficile pour moi de fonctionner dans la vie. Mais effectivement, il y a un travail à faire pour dire, ben, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma sécurité? Comment ça se fait que je me sens menacée constamment? Et encore là, c'est des personnes qui peuvent avoir l'appétit coupé, peuvent se retrouver en sous-poids, mais des personnes qui ont l'appétit coupé peuvent se retrouver aussi à compulser, rendu au soir, parce que là, le stress, mettons, toute la journée stressée au travail. Souvent, les gens vont me dire, moi, comme je comprends pas pourquoi c'est le soir que ça se passe, mais oui, t'es stressé toute la journée au travail. Tu manges quasiment pas, mais tu t'en rends pas compte parce qu'avec tout notre bagage de diète, on pense que des quantités vraiment restreintes, c'est des quantités normales. Puis le soir, ben, on part en débandade parce que le corps a juste trop faim. Donc, et ce stress-là est tellement habituel, comme ça, comme, je suis pas stressée, je vais juste travailler. Donc, c'est ce stress qu'on réalise même pas qu'on a. Et l'autre réaction au stress, ben, c'est, je suis stressée, je mange, j'ai besoin de remplir pour essayer d'aller m'apaiser. Donc, ça, c'est l'autre façon de réagir au stress, donc comme tout ce qu'on te sentiment, c'est vraiment très, très, très envahissant, le stress. Donc, certaines personnes ne tolèrent pas. On appelle ça une incapacité de tolérer l'émotion. Donc, à ce moment-là, la personne dit « Ah oui, moi, quand je suis stressée, j'arrête pas de manger. » Encore là, c'est de travailler à réguler la réaction au stress pour que la bouffe arrête d'être soit coupée ou consommée en trop grande quantité puis reprenne ta place normale. Donc,
Et d'expérience, quand on mange, quand on est stressé, c'est pas là qu'on fait les choix alimentaires les plus alignés sur notre nutrition.
Non, parce que en fait, à ce moment-là, on mange vraiment nos émotions, donc on va essayer d'aller chercher des aliments apaisants, comme je disais, tout le côté comfort food, c'est souvent les aliments comme, tu sais, quand je disais le top de la pyramide, là, quand je parlais des interdits, ben souvent, au top de la pyramide s'entrecroisent et les aliments qu'on mange quand on est stressé, ou qu'on mange quand on a des émotions et les interdits, parce que au début on les mange parce qu'on comble nos émotions. Ben tu sais, finir un pot de crème glacée, ben on se dit je devrais pas manger de crème glacée, fait que l'aliment est mangé quand on a des émotions, puis il finit par être dans la liste des interdits aussi parce qu'on se dit je devrais pas en acheter, fait que comme les deux s'entrecroisent au sommet.
Quel sujet intéressant. Hey, merci beaucoup, Guylaine. C'est vraiment super apprécié et intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail, sur ce que tu fais, ils vont où?
Ben, ils peuvent soit lire un des livres que j'ai écrits. J'ai écrit 4 livres sur le sujet. Il y en a un, le livre Manger. J'ai récupéré les droits, donc il est accessible gratuitement sur mon site web, donc dans la section services gratuits ou conseils.
Je vais mettre le lien. Donc,
ils peuvent downloader le livre Manger. Donc, si certaines personnes se disent, ben, je suis un peu curieuse, je vais aller voir, aller explorer, qu'est-ce que, à quoi ça retourne, tout ça. Donc, il y a la possibilité d'aller là. Sinon, j'ai la retraite au mois d'avril qui s'en vient, donc un 3 jours, aller justement le débusquer, là, comme où se cache la relation. Parce que moi, j'adore faire ce genre de travail de détective, de faire comme où est-ce qu'elle est, ma relation, comment ça s'entrecroise entre le côté émotionnel et le côté alimentaire. Donc, d'aller faire, c'est vraiment une expérience comme d'atelier, donc de pratique, là, les gens travaillent leur relation avec les aliments.
Ça s'adresse à qui, ta retraite? Aux hommes, le profil, c'est
les femmes adultes, je dirais, qui ont vraiment envie d'arrêter de faire des diètes puis de trouver vraiment c'est quoi la source de qu'est-ce qui amène à avoir un comportement alimentaire ou une relation avec la nourriture, une relation avec son corps qui est perturbée, qui veulent en finir. C'est vraiment un intensif, là, comme 12 heures le vendredi, 12 heures le samedi, c'est moi qui est debout devant les gens, avec les gens, pendant tout ce temps-là. Puis le dimanche, c'est de 9h à 5h. Donc ça, c'est une belle façon de découvrir justement le travail. Puis sinon, ben c'est possible aussi de venir me consulter en rencontre individuelle. Là. Je fais aussi des rencontres individuelles à la clinique.
Puis tu fais
tout est en virtuel, donc où que les gens soient, on est en ligne.
OK, parfait. Hey, un grand merci encore une fois, Guylaine, puis bravo pour ce travail-là si important.
Merci, Génie. Ça a été super agréable. Puis, c'est ma passion pour en parler sans arrêt.
Ça paraît.
Bye.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.francoeur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt!